Bonjour à tous et bienvenue dans Contact, l'émission qui vous plonge dans les mots d'un auteur tous les mercredis à 22h30. Pendant une demi-heure, c'est lecture sur Canal B. Vous avez bien entendu, c'est lecture. On va lire des livres, tourner des pages, bref, on va vibrer au rythme des belles formules. Pour vous conduire dans cette expédition littéraire hebdomadaire, un lecteur modeste, votre serviteur du soir, Edgar, pour vos beaux yeux, chers auditeurs. Les amis, ce soir, c'est une montagne que l'on va gravir, de celles qui ont changé la littérature pour toujours. Je vous invite à enfiler votre sac à dos. Nous allons débuter l'ascension des frères Karamazov de Fiodor Dostoïevski. Considéré comme un des plus grands romanciers russes, peut-être même comme un des plus grands tout court, Dostoïevski, c'est l'écrivain préféré de votre écrivain préféré. Il est de ceux qui font de l'ombre à tous les autres. Avec ses analyses en profondeur, au bout du bout du bout de la psychologie de ses personnages, c'est nous, finalement, les lecteurs que Dostoïevski psychanalyse et interpelle presque 200 ans après la sortie de ses différents romans et nouvelles. Les frères Karamazov est son dernier roman. Il est sorti en 1880, un an avant sa mort, à 60 ans. Dans celui-ci, il raconte la destinée des trois fils de Fiodor Karamazov, un propriétaire terrien à la fois libidineux et cynique. Pas moins de 1000 pages tout de même pour cette grande fresque qui évoque pêle-mêle la foi, la rationalité, le bien, le mal, bref, tous les thèmes qui traversent la vie et l'œuvre de Dostoïevski et en font, sans doute, un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature mondiale. Pour notre lecture du jour, je débute pour une fois au début du roman. Bonne écoute à tous. Alexei Fiodorovitch Karamazov était le troisième fils d'un propriétaire foncier de notre district, Fiodor Pavlovitch, dont la mort tragique, survenue il y a 13 ans, fit beaucoup de bruit en son temps et n'est point encore oubliée. J'en parlerai plus loin et me bornerai pour l'instant à dire quelques mots de ce « propriétaire », comme on l'appelait, bien qu'il n'eût presque jamais habité sa propriété. Fiodor Pavlovitch était un de ces individus corrompus en même temps qu'ineptes, qui s'entendent uniquement à soigner leur intérêt. Ce petit taubereau débuta presque avec rien et s'acquit promptement la réputation de pique-assiette, mais à sa mort, il possédait quelques 100 000 roubles d'argent liquide. Cela ne l'empêcha pas d'être, sa vie durant, un des pires extravagants de notre district. Je dis extravagant et non point imbécile, car les gens de cette sorte sont pour la plupart intelligents et rusés. Il s'agit là d'une ineptie spécifique et nationale. Il fut marié deux fois et eut trois fils. L'aîné, Dmitri, du premier lit, et les deux autres, Ivan et Alexei, du second. Sa première femme appartenait à une famille noble, les Miossov, propriétaires assez riches du même district. Comment une jeune fille bien dotée, jolie, de plus vive, émerveillée, spirituelle, telle qu'on en trouve beaucoup parmi nos contemporaines, avait-elle pu épouser pareil et cervelé, comme on appelait ce triste personnage ? Je crois inutile de l'expliquer trop longuement. J'ai connu une personne de l'avant-dernière génération romantique qui, après plusieurs années d'un amour mystérieux pour un monsieur qu'elle pouvait épouser en tout repos, finit par se forger des obstacles insurmontables à cette union. Par une nuit d'orage, elle se précipita du haut d'une falaise et une rivière rapide et profonde et périt victime de son imagination uniquement pour ressembler à l'Ophélie de Shakespeare. Si cette falaise qu'elle affectionnait particulièrement eût été moins pittoresque ou remplacée par une rive plate et prosaïque, elle ne se serait sans doute point suicidée. Le fait est authentique et je crois que les deux ou trois dernières générations russes ont connu bien des cas analogues. Pareillement, la décision que prit Adélaïde Miossov fut sans doute l'écho d'influences étrangères. L'exaspération d'une âme captive, elle voulait peut-être affirmer son indépendance, protester contre les conventions sociales, contre le despotisme de sa famille. Son imagination complaisante lui dépeignit Fiodor Pavlovitch, malgré sa réputation de pique assiette, comme un des personnages les plus hardis et les plus malicieux de cette époque en voie d'amélioration, alors qu'il était, en tout et pour tout, un méchant bouffon. Le piquant de l'aventure fut un enlèvement qui ravit Adélaïde Ivanova. La situation de Fiodor Pavlovitch le disposait alors à de semblables coups de main. Brûlant de faire son chemin à tout prix, il trouva fort plaisant de s'insinuer dans une honnête famille et d'empocher une jolie dot. Quant à l'amour, il n'en était question ni d'un côté ni de l'autre, malgré la beauté de la jeune fille. Cet épisode fut probablement unique dans la vie de Fiodor Pavlovitch, toujours grand amateur du beau sexe, toujours prêt à s'accrocher à n'importe quelle jupe, pourvu qu'elle lui plût. Cette femme, en effet, n'exerça sur lui aucun attrait sensuel.
Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени. Все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня и от света. И думаешь ты, что прекраснее нет, чем лес заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна с небом пасмурным в ссоре, все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно. Украду, если кража тебе по душе, зря ли я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.
De retour dans Contact, l'émission qui vous plonge dans les mots d'un auteur tous les mercredis à 22h30 sur Canal B 94 MHz. Chers auditeurs, je vous invite à poursuivre la lecture des frères Karamazov de Fiodor Dostoïevski. Adélaïde Ivanova eut au fait de constater qu'elle n'éprouvait que du mépris pour son mari. Dans ces conditions, les suites du mariage ne se firent pas attendre. Bien que la famille eût assez vite pris son parti de l'événement et remis sa dot à la fugitive, une existence désordonnée et des scènes continuelles commencèrent. On rapporte que la jeune femme se montra beaucoup plus noble et plus digne que Fiodor Pavlovitch, qui lui escamota dès l'abord, comme on l'apprit plus tard, tout son capital liquide, 25 000 roubles, dont on n'entendit plus jamais parler. Pendant longtemps, elle mit tout en œuvre pour que sa femme lui transmît, par un acte en bonne et due forme, un petit village et une assez belle maison de ville qui faisaient partie de sa dot. Il y serait certainement parvenu, tant ses extorsions et ses demandes effrontées inspiraient de dégoût à la malheureuse que la lassitude poussait à dire oui. Par bonheur, la famille intervint et réfréna la rapacité du mari. Il est notoire que les époux en venaient fréquemment au coup et on prétend que ce n'est pas Fiodor Pavlovitch qui les donnait, mais bien Adélaïde Ivanova, femme emportée, hardie, brune, irascible, douée d'une étonnante vigueur. Elle finit par s'enfuir avec un séminariste qui crevait de misère, laissant sur les bras, à son mari, un enfant de 3 ans, Mitya. Le mari s'empressa d'installer un harem dans sa maison et d'organiser des souleries. Entre-temps, dans sa maison, il parcourait la province, se lamentant à tout venant de la désertion d'Adélaïde Ivanova avec des détails choquants sur sa vie conjugale. On aurait dit qu'il prenait plaisir à jouer devant tout le monde le rôle ridicule de mari trompé, à dépeindre son infortune en changeant les couleurs. « On croirait que vous vous êtes monté en garde, Fiodor Pavlovitch, tant vous paraissez content malgré votre affliction », lui disaient les railleurs. Beaucoup ajoutaient qu'il était heureux de se montrer dans sa nouvelle attitude de bouffon et qu'à dessein, pour faire rire davantage, il feignait de ne pas remarquer sa situation comique. Qui sait d'ailleurs, peut-être était-ce de sa part naïveté. Enfin, il réussit à découvrir les traces de sa fugitive. La malheureuse se trouvait à Pétersbourg où elle avait achevé de s'émanciper. Fiodor Pavlovitch commença à s'agiter et se prépara à partir. Dans quel dessein, lui-même n'en savait rien. Peut-être eut-il vraiment fait le voyage de Pétersbourg, mais cette décision prise, il estima avoir le droit, pour se donner du cœur, de se saouler dans toutes les règles. Sur ces entrefaites, la famille de sa femme apprit que la malheureuse était morte subitement dans un taudis de la fièvre typhoïde, disent les uns, de faim prétendent les autres. Fiodor Pavlovitch était ivre lorsqu'on lui annonça la mort de sa femme. On raconte qu'il courut dans la rue et se mit à crier dans sa joie, les bras du ciel. « Maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton serviteur !» D'autres prétendent qu'il sanglotait comme un enfant, au point qu'il faisait peine à voir, malgré le dégoût qu'il inspirait. Il se peut fort bien que l'une et l'autre version soient vraies. C'est-à-dire qu'il se réjouit de sa libération, tout en pleurant sa libératrice. Bien souvent, les gens, même méchants, sont plus naïfs, plus simples que nous le pensons. Nous aussi, d'ailleurs.
Качаясь, тонкая рябина.
De retour dans Contact, vous êtes toujours sur Canal B et vous faites bien. C'est parti pour la troisième et dernière lecture, toujours dans les pas d'Alexeï Fiodorovitch Karamazov. On peut se figurer quel père et quel éducateur pouvait être un tel homme. Comme il était à prévoir, il délaissa complètement l'enfant qu'il avait eu d'Adélaïde Ivanova, non par animosité ou par rancune conjugale, mais simplement parce qu'il l'avait tout à fait oublié. Tandis qu'il excédait tout le monde par ses larmes et ses plaintes et faisait de sa maison un mauvais lieu, le petit Mitia fut recueilli par Grégory, un fidèle serviteur. Si celui-ci n'en avait pas pris soin, l'enfant n'aurait peut-être eu personne pour le changer de linge. De plus, sa famille maternelle parut l'oublier. Son grand-père était mort, sa grand-mère, établie à Moscou, trop souffrante, ses tantes s'étant mariées, de sorte que Mitia dut passer presque une année dans le pavillon où habitait Grégory. D'ailleurs, si son père s'était souvenu de lui, il eût renvoyé l'enfant au pavillon pour n'être pas gêné dans ses débauches. Mais sur ces entrefaites, arriva de Paris le cousin de feu Adélaïde Ivanova, Piotr Alexandrovitch Miusov, qui devait par la suite passer de nombreuses années à l'étranger. À cette époque, il était encore tout jeune et se distinguait de sa famille par sa culture et ses belles manières. Occidentaliste convaincu, il devait, vers la fin de sa vie, devenir un libéral à la façon des années 40 et 50. Au cours de sa carrière, il fut en relation avec de nombreux ultra-libéraux, tant en Russie qu'à l'étranger, et connut personnellement Proudhon et Bakounine. Il aimait à évoquer les trois journées de février 1848 à Paris, donnant à entendre qu'il avait failli prendre part aux barricades. C'était un des meilleurs souvenirs de sa jeunesse. Il possédait une belle fortune, environ 1000 âmes, pour compter à la mode ancienne. Sa superbe propriété se trouvait aux abords de notre petite ville et touchait aux terres de notre fabuleux monastère. Sitôt en possession de son héritage, Piotr Alexandrovitch entama avec les moines un procès interminable au sujet de certains droits de pêche ou de coupe de bois, je ne sais plus au juste, mais il estima de son devoir, en tant que citoyen éclairé, de faire un procès aux cléricaux. Quand il apprit les malheurs d'Adélaïde Ivanova, dont il avait gardé bon souvenir, ainsi que l'existence de Mitia, il prit à cœur cette affaire, malgré l'indignation juvénile et le mépris que lui inspirait Fiodor Pavlovitch. C'est alors qu'il vit celui-ci pour la première fois. Il lui déclara ouvertement son intention de se charger de l'enfant. Longtemps après, il racontait, comme un trait caractéristique, que Fiodor Pavlovitch, lorsqu'il fut question de Mitia, parut un moment ne pas comprendre de quel enfant il s'agissait, et même s'étonner d'avoir un jeune fils quelque part dans sa maison. Pour exagérer qu'il fût, le récit de Piotr Alexandrovitch n'en devait pas moins contenir une part de vérité. Effectivement, Fiodor Pavlovitch aima toute sa vie à prendre des attitudes, à jouer un rôle, parfois sans nécessité aucune, et même à son détriment, comme dans le cas présent. C'est d'ailleurs là un trait spécial de beaucoup de gens. Même Poinceau, Piotr Alexandrovitch mena l'affaire rondement et fut même nommé tuteur de l'enfant. Sa mère ayant laissé une maison et des terres, Mitia alla demeurer chez ce petit cousin qui n'avait pas de famille. Pressé de retourner à Paris après avoir réglé ses affaires et assuré la rentrée de ses fermages, il confia l'enfant à l'une de ses tantes qui habitait Moscou. Par la suite, s'étant acclimaté en France, il oublia l'enfant surtout lorsqu'éclata la révolution de février qui frappa son imagination pour le reste de ses jours. La tante de Moscou étant morte, Mitia fut recueilli par une de ses filles mariées. Il changea, paraît-il, une quatrième fois de foyer. Je ne m'étends pas là-dessus pour le moment, d'autant plus qu'il sera encore question de ce premier rejeton de Fiodor Pavlovitch, et je m'éborne aux détails indispensables sans lequel il m'est impossible de commencer mon roman. « Et d'abord, seul des trois fils de Fiodor Pavlovitch, Dmitri grandit dans l'idée qu'il avait quelques fortunes et serait indépendant à sa majorité. Son enfance et sa jeunesse furent mouvementées. Il quitta le collège avant terme, entra ensuite dans une école militaire, partit pour le Caucase, servit dans l'armée, fut dégradé pour s'être battu en duel, reprit du service, fit la fête, gaspilla pas mal d'argent. Il n'en reçut de son père qu'une fois majeur et il avait, en attendant, contracté pas mal de dettes. Il ne vit pour la première fois Fiodor Pavlovitch qu'après sa majorité, lorsqu'il arriva dans le pays spécialement pour se renseigner sur sa fortune. Son père, semble-t-il, lui déplut dès l'abord. Il ne demeura que peu de temps chez lui et s'empressa de repartir en emportant une certaine somme après avoir conclu un arrangement pour les revenus de sa propriété. Chose curieuse, il ne put rien tirer de son père quant au rapport et à la valeur du domaine. Fiodor Pavlovitch remarqua d'emblée, il importe de le noter, que Mitya se faisait une idée fausse et exagérée de sa fortune. Il en fut très content, ayant en vue ses intérêts particuliers, il en conclut que le jeune homme était étourdi, emporté, avec des passions vives, et qu'en donnant un os à ronger à ce fêtard, on l'apaiserait jusqu'à nouvel ordre. Il exploita donc la situation, se bornant à lâcher de temps à temps de faibles sommes. Jusqu'à ce qu'un beau jour, 4 ans après, Mitya, à bout de patience, reparut dans la localité pour exiger un règlement de compte définitif. À sa stupéfaction, il apprit qu'il ne possédait plus rien. Il avait déjà reçu en espèces de Fiodor Pavlovitch la valeur totale de son bien, peut-être même restait-il lui redevoir, tant les comptes étaient embrouillés. D'après de tel et tel arrangement, conclu à telle et telle date, il n'avait pas le droit de réclamer davantage, etc. Le jeune homme fut consterné. Il soupçonna la supercherie, se mit hors de lui, en perdit presque la raison. Cette circonstance provoqua la catastrophe dont le récit fait l'objet de mon premier roman, ou plutôt son cadre extérieur. Mais avant d'aborder le dit roman, il faut encore parler des deux autres fils de Fiodor Pavlovitch et expliquer leur provenance. La lecture est terminée pour aujourd'hui. Si ces quelques pages vous ont plu, le roman « Les frères Karamazov » de Dostoïevski est édité par la Pléiade de Gallimard. Merci pour votre attention. L'émission est à réécouter prochainement en podcast sur le site de Canal B. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit et bonne lecture.